Bonjour et bienvenue, c'est Hélène Denis qui vous accueille à l'émission Le quotidien des quotidiens. Édition du 20 décembre 2017, à 5 jours de Noël, je salue Maurice Bolduc. Bonjour Maurice.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous commencez à avoir des papillons dans l'estomac?
Oui. Je déménage dans 2 jours.
OK. C'est ouais. Pas Noël qui vous excite, c'est votre déménagement qui vous énerve.
Oui, oui, oui.
Mais non. Vous êtes avancé.
Oui, pas pire. Oui, ça avance. Lentement, mais sûrement.
Et j'espère qu'il ne fera pas trop froid, qu'il n'y aura pas de tempête.
On va faire avec, là.
Ouais.
L'équipe est prête. Ouais.
Est-ce que vous êtes le chef de l'équipe?
Non.
Non.
J'ai un colocataire, c'est lui qui lead de la chose.
D'accord. Ouais. Alors, pour l'instant, c'est vous qui l'aidez, entre guillemets, mm-hmm. la chronique éphéméride.
Donc, 20 décembre aujourd'hui. 20 décembre étant la journée internationale de la solidarité humaine. Ah. Rien de moins, donc soyons solidaires.
Non, ça n'a rien à voir.
Non.
Ben, ça a quelque chose à voir.
Un peu, là, mais c'est humaine.
Faut pas mélanger les choses,
oui. Donc, oui, soyons solidaires avec les gens qui nous entourent. En quelques événements, en 1699 en Russie, le tsar Pierre le Grand décrète que l'année va commencer le 1er janvier au lieu du 1er septembre. Hein? Ensuite, en 1792, c'est le premier accord postal entre le Canada et les États-Unis. En 1803, lors d'une cérémonie à la Nouvelle-Orléans, les États-Unis complètent l'achat à la France de la Louisiane, qui était plus grande que l'État actuel, pour 15 millions de dollars à l'époque. Quand même beaucoup de sous. En 1812, les frères Grimm publient la première édition des Contes de l'enfance et du foyer. Ici, ça me fait rigoler. Autre temps, autre mœurs. En 1820, au Missouri, les célibataires âgés entre 21 et 50 ans doivent payer 1 dollar par an pour garder le célibat.
1 dollar?
Oui, à l'époque quand
c'est
même.
C'est drôle. Hein?
Ouais. En 1859, c'est la première pelletée de terre sur le terrain du Parlement à Ottawa, la ville ayant été choisie un an plus tôt par une proclamation de la reine Victoria. La pierre angulaire sera posée le 1er septembre 1860. En 1893, c'est l'ouverture à Québec du château Frontenac. En 1922, en Russie, dans le Caucase et ailleurs, 14 territoires sont réunis sous le nom d'Union des républiques socialistes soviétiques, et ça va durer l'URSS jusqu'en 1991. En 1950, Félix Leclerc débute au théâtre ABC de Paris en première partie des Compagnons de la chanson. En 1951, c'est la mise en service de la première centrale nucléaire au monde, Experimental Breeder Reactor, qui a été construite au Laboratoire national de l'Idaho aux États-Unis. En 1967, à Trois-Rivières-Ouest, le pont La Violette sur le Saint-Laurent est ouvert à la circulation. 1971, c'est la fondation de Médecins sans frontières.
Quelle année vous avez dit, Maurice?
Médecins sans frontières, 1971.
OK, merci.
Oui. En 1993, Ottawa interdit la pêche à la morue de l'Atlantique qui est en rupture de stock. Je crois que maintenant, on peut repêcher de la morue. Ce sera à vérifier, mais je crois que oui.
En tout cas, on en mange.
Oui, bah oui. Et on peut la boire aussi en huile. Sinon, c'est bon pour la grippe. En 1995, là, c'est la passation officielle des pouvoirs de l'ONU à l'OTAN pour la Bosnie. En 2000, la Chambre haute du Parlement néerlandais étend le droit au mariage et à l'adoption aux couples homosexuels. En 2004, Guy Cloutier est condamné à 42 mois de prison pour des viols sur des enfants. Un peu moins drôle. 2011, c'est la découverte de deux planètes, des deux premières exoplanètes de taille terrestre, la Kepler-20e et la Kepler-20f.
C'est pas très poétique comme nom.
Non. Et la Cour suprême en 2012, pour terminer, la Cour suprême du Canada affirme qu'une femme peut témoigner devant les tribunaux en conservant son niqab, mais seulement dans certaines situations. Là, ce ne sont pas décrites les situations, mais ce sera à vérifier. Je souligne une naissance, journaliste et politicien Théodore Damien Bouchard, artisan du droit des femmes à Saint-Hyacinthe, donc on l'aime, et un décès, l'écrivain John Steinbeck, lui, nous quittait en 1968, avec qui on doit, je crois, des souris et des hommes.
John Steinbeck?
Oui.
Oui.
Donc, ça fait le tour de ce 20 décembre 2017.
Merci, Maurice. À la une de la presse aujourd'hui, actualité, procès de Sabrine German et d'El Mahdi Jamali, non coupables de terrorisme. Et à ce sujet, la chronique de Patrick Lagacé intitulée « Comme une envie de grimper dans les rideaux ». 24 heures tremblant, la charité qui coûte cher. Exclusif UNESCO, Ottawa mise sur Anticosti. La chronique de Francis Vaille, écolo désespéré cherche auto électrique. Art, casse-noisette féerique, le classique des fêtes reprend l'affiche, clin d'œil. Ils sont très contents. C'est un article de Gabriel Duchesne. Sabrine German et elle, Maddy Jamali, sont tombés dans les bras l'un de l'autre dans le hall presque désert du palais de justice de Montréal où ils ont été libérés. Il était passé 19 heures et leur famille n'en pouvait plus d'attendre. Sabrine est sortie la première, accueillie par des cris et des pleurs, suivie quelques minutes plus tard d'elle, Maddy. Le jeune homme a soulevé sa copine en larmes avant de lui couvrir le visage et les cheveux de baisers. Retour sur le procès, les verdicts pour El Maddy Jamali, 20 ans, avoir tenté de quitter le Canada en vue de commettre un acte terroriste à l'étranger. Non coupable. Possession d'une substance explosive dans un dessein dangereux. Non coupable. Avoir commis un acte au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste. Non coupable. Coupable d'un chef réduit au code criminel de possession d'explosifs sans excuse légitime. Pour Sabrine German, 21 ans, avoir tenté de quitter le Canada en vue de commettre un acte terroriste à l'étranger, non coupable. Possession d'une substance explosive dans un dessein dangereux, non coupable. Avoir commis un acte au profit ou sous la direction d'un groupe terroriste, non coupable. Retour sur les faits. Sabrine German et El Maddy Jamali ont été arrêtés par la Gendarmerie royale du Canada le 14 avril 2015. La police avait été alertée par une sœur de Sabrine qui craignait que le couple quitte le pays pour la Syrie. Lors de perquisitions, la police a découvert une recette de bombe artisanale écrite à la main et pratiquement identique à celle suggérée dans un magazine publié par le groupe Al-Qaïda, ainsi que plusieurs ingrédients potentiels, dont des clous. Aussi trouvée une liste d'articles qui, selon l'expert Tarek Mokdad, avait des similitudes avec la liste de préparation au voyage proposée par le groupe armé État islamique à ses futurs recrues. Le couple avait acheté des billets d'avion pour la Grèce et avait déclaré ses passeports perdus pour en avoir de nouveaux. Ce que le jury n'a pas su, plusieurs éléments de l'enquête menée contre Sabrine German et El Maddy Jamali n'ont pas été présentés au jury parce que des témoins auraient changé leur version des faits, révèlent des documents judiciaires. Sabrine aurait dit à sa meilleure amie « Ce qui est bon, c'est d'aller combattre pour notre religion ». Et si on ne peut pas y aller, il faut le faire ici. Et on voulait partir, mais là, on ne peut plus. El Maddy aurait dit à un ami vouloir partir en Syrie et qu'il effectuait actuellement des recherches liées à son départ. Sabrine aurait dit à sa sœur qu'ils étaient plusieurs de l'EI prêts à attaquer le Canada, qu'ils n'attendaient qu'un message et que la GRC est partout dans les mosquées. C'est Gabriel Duchesne de la presse donc, qui rapporte ces citations. Je pense qu'ils auront besoin de temps pour réfléchir à tout ça et j'espère qu'ils en sortiront plus forts. Ils s'aiment toujours, ils ont un avenir ensemble et c'est sur ça qu'ils vont mettre leurs efforts, a dit Maître Charles Ben Mouyal, avocat de Sabrine German. Des chiffres jugés préoccupants, Charity Intelligence, qui analyse les résultats financiers des organismes de bienfaisance, estime que la Fondation 24 heures Tremblant se trouve dans une zone déraisonnable sur le plan du pourcentage de dons reversés. Le 24 heures Tremblant constitue-t-il, comme l'affirment les promoteurs de l'événement, un modèle à suivre en matière de philanthropie ou une manière inefficace de récolter des fonds pour venir en aide aux jeunes dans le besoin? Pour la directrice de Charity Intelligence, Kate Bahan, qui se spécialise dans l'analyse de la performance financière des organismes de bienfaisance, la réponse ne fait pas de doute. L'organisation torontoise, qui a passé au crible les états financiers vérifiés de près de 700 de ces organismes à l'échelle du Canada, estime que les chiffres contenus dans les documents de la Fondation 24 heures Tremblant sont préoccupants. Mme Bahen juge que les frais d'administration et les dépenses requises pour l'organisation de l'événement font en sorte qu'environ 50 cents sur chaque dollar de dons reçus sont ultimement reversés à des organisations de bienfaisance bénéficiaires. Ce chiffre, souligne-t-elle, a varié entre 45 et 55 cents selon les états financiers pour les exercices financiers de 2014 à 2017 que la presse a consulté. La Fondation 24 heures se retrouve sur ce plan dans une zone jugée déraisonnable par Charity Intelligence. La Fondation 24 heures Tremblant affirme que la méthodologie utilisée par Charity Intelligence est erronée et rejette catégoriquement ses conclusions. Ottawa misera sur Anticosti pour inscrire un nouveau lieu canadien à la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, aussi responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, en fera l'annonce aujourd'hui à Gatineau, a appris la presse. La ministre McKenna dévoilera les endroits les plus exceptionnels qui s'ajouteront à la liste indicative des sites du patrimoine mondial du Canada, une étape préalable à la soumission d'un dossier de proposition d'inscription à l'UNESCO. Selon nos informations, seule l'île de la Mingani, sur la côte nord, a été retenue pour la prochaine étape officielle. Tout n'est pas réglé à Laval-sur-le-Lac, réseau électrique métropolitain. Le quartier cossu de Laval-sur-le-Lac à la pointe ouest de l'île Jésus vit en symbiose avec son célèbre club de golf depuis un siècle. Ce n'est sans doute pas un hasard si on y accède par une petite rue située à peu près exactement au centre géographique de cet ancien haut-lieu de la villégiature chic. L'entrée principale du golf passe par la rue Les Cèdres qui, après le passage à niveau du train de banlieue de Montagne, devient le chemin privé du club. Dans 3 ans, avec l'arrivée du réseau électrique métropolitain REM, cette entrée locale sera condamnée à jamais. Et une palissade infranchissable séparera le club de golf du quartier qui lui a donné son nom. Parce qu'il sera en service 20 heures par jour, que sa fréquence de passage pourrait atteindre 10 trains à l'heure dans chaque direction en période de pointe, et parce que le REM sera un train autoguidé, sans conducteur, tous les passages à niveau du train de banlieue actuel seront supprimés et remplacés par des structures d'étagement afin de faire passer la circulation automobile sous les voies ferrées. Jean-Guy Murray habite près du coin des rues Les Peupliers et Les Cèdres à l'entrée du golfe. Ça fait 30 ans qu'il vit là, quand il a vu une image illustrant ce que cela allait donner. Juste devant chez lui, il a été horrifié. « Les gens sont aussi inquiets à cause du bruit », dit M. Murray. « Présentement, quand le train de Deux Montagnes passe, j'ai l'impression de me retrouver dans une gare de triage. » La filiale de la Caisse de dépôt responsable de la construction du REM, CDPQ Infra, est disposée à renoncer à l'étagement de ses voies ferrées. Elle a même déjà élaboré un scénario de remplacement qui assurera un accès sécuritaire et protégé au club de golf, et ce, sans viaduc ni structure de béton de 3 mètres de hauteur. Selon le porte-parole de CDPQ, Jean-Vincent Lacroix, le nouveau scénario propose de prolonger une rue existante, la rue du chemin de fer, et d'aménager un chemin d'entrée à même l'emprise ferroviaire sur une distance d'environ 900 mètres jusqu'à l'entrée actuelle du club de golf sur la rue Les Cèdres. Selon M. Lacroix, CDPQ a développé avec les représentants de la ville de Laval des solutions à presque toutes les interrogations soulevées par la municipalité ou ses résidents relativement aux chantiers majeurs à venir et aux impacts permanents de l'implantation du REM sur le territoire lavallois. Dans un entretien avec la presse, François Brochu, porte-parole du maire de Laval, Marc Demers, a qualifié ce portrait de CPDQ Infra de jovialiste en affirmant que plusieurs des interrogations des services techniques de la ville demeurent malgré les assurances des représentants de la Caisse de dépôt. Sans tambour ni trompette, l'Auto-Québec a enclenché cette semaine la dernière phase du retrait d'appareils de loterie vidéo ALV, entrepris il y a un an après une série de reportages de la presse. Pas moins de 200 propriétaires de bars ont reçu une lettre les prévenant que leurs appareils seraient retirés en 2018. Pour l'année suivante, ils pourront bénéficier d'une compensation pouvant totaliser 10 millions, parce que Québec souhaite notamment se mettre à l'abri des poursuites judiciaires.
Il fait pas chaud, même si l'hiver est beau. J'aurais bien le goût de sacrer mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, c'est pour ça que j'ai les pieds. Puis c'est bon pour ça, je l'ai la tête dans le temps des fêtes. J'ai pas de skidoo, j'ai pas de garage. La slotch partout, moi ça m'enrage. Les grosses tempêtes qui traînent à plus finir. Je ferme toutes mes fenêtres puis je veux même plus sortir.
Oh, il fait pas chaud, même si l'hiver est beau. J'aurais pas le goût de sacrer mon camp jusqu'au printemps. L'hiver pour moi, c'est pour ça que je l'ai les pieds. Puis c'est bien bon pour geler la tête.
Rentrer chez moi. Si c'est comme ça, je me tire d'ici, vite fait, je vous le dis. L'hiver pour moi,
l'hiver pour toi.
C'est pas pour se geler les pieds ni pour se cailler les doigts. Et puis merde, je vends ma cabane au Canada.
Bon débarras, dans le sud, c'est un maudit beau voyage.
Ah ben oui, ça c'est sûr, ça.
L'hiver est moins rude sur une plage.
Ouais, c'est évident, là, moi, j'ai jamais
joué. Le grand soleil à 50 cents par jour.
50 quoi?
Qu'est-ce que ça vaut la peine d'aller faire son petit tour.
Oh!
Christine Tassan et les imposteurs qui nous revisitaient un hit de Plume, La Traverse, l'hiver.
À la une du Devoir, le couple German-Jamali est libre. Une photo d'eux, tout sourire, main dans la main et souriant justement. Sabrine German et elle, Madi Jamali, ont quitté le palais de justice de Montréal mardi soir après avoir été acquittés de toutes les accusations liées au terrorisme qui pesaient contre eux. La GRC souhaite toutefois qu'un juge leur impose un engagement à ne pas troubler l'ordre public. Jean-Marc Fournier réclame des excuses. Les allégations d'Yves Francoeur ne sont pas fondées, selon l'enquête policière. 'Catalogne, l'école dans la tourmente politique. Un parti fait campagne contre l'enseignement en catalan uniquement. Le Canada à l'affût des ovnis. Plusieurs enquêtes ont été menées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis ne sont pas les seuls à porter attention aux objets volants non identifiés. Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le milieu des années 1990, le gouvernement du Canada a déployé des efforts constants pour répertorier et enquêter sur les signalements effectués par les Canadiens. Montréal, sursis pour l'école de la dernière chance et réforme fiscale, un premier succès significatif pour Donald Trump. En culture, le palmarès francophone, les 10 meilleurs disques de la francophonie en 2017, selon nos critiques Sylvain Cormier et Philippe Papineau. Le président de la Fraternité des policiers de Montréal, Yves Francoeur, a été rabroué mardi par le directeur des poursuites criminelles et pénales, DPCP, et le ministre Jean-Marc Fournier, après qu'une enquête eut conclu qu'aucune preuve ne permet d'étayer ses prétentions sur la fermeture prématurée d'une enquête en raison de pression politique. Au terme d'une enquête qu'elle a menée auprès de 60 personnes, une équipe mixte pilotée par la Sûreté du Québec et supervisée par le Bureau des enquêtes indépendantes a conclu que les allégations des Francoeur étaient non fondées. Aucune preuve ne démontre quelque fraude ou trafic d'influence, a-t-elle statué. Le 27 avril, Yves Francoeur a déclaré au micro du 98.5 FM qu'une enquête de fraude ou de trafic d'influence qui concernait deux élus libéraux, dont un siégeait toujours à l'Assemblée nationale, avait été bloquée en plus haut lieu et peut-être au sein même du DPCP. L'affaire avait éclaboussé l'ex-ministre libéral Raymond Bachan et le leader actuel du gouvernement Jean-Marc Fournier, de même que le directeur du service de police de la Ville de Québec et ex-directeur des enquêtes de la commission Charbonneau, Robert Pigeon. Les deux premiers étaient montrés du doigt parce qu'ils auraient été visés par l'enquête criminelle, tandis que le dernier était mis en cause pour avoir prétendument fait avorter l'affaire. Quelques heures après l'annonce de la SQ, Yves Francoeur a fait savoir qu'il prenait acte de la conclusion de l'enquête. « Aucun commentaire ne sera émis et aucune entrevue ne sera accordée », a écrit la Fraternité des policiers de Montréal dans un bref communiqué de presse. Ce mutisme a déclenché la colère de Jean-Marc Fournier, qui s'est présenté devant les médias pour réclamer des excuses. L'organisation Ben Nye Brit Canada soutient qu'au moins 5 synagogues au pays ont reçu récemment des messages haineux à caractère antisémite. Selon l'Organisation de défense des droits de la communauté juive, 2 des synagogues visées sont situées à Montréal. Les autres se trouvent à Edmonton, à Toronto et à Hamilton, en Ontario. Les diverses lettres réclament le génocide du peuple juif, avec notamment une affiche en anglais proclamant « La juiverie doit périr, accompagnée d'une étoile de David dégoulinant de sang, affublée en son centre d'une croix gammée nazie. Les services policiers de ces 4 villes mènent leur enquête. En point de presse à l'Hôtel de Ville de Montréal mardi, la mairesse Valérie Plante a affirmé qu'il fallait prendre ces menaces au sérieux. CSDM, sursis pour l'école de la dernière chance, le ministre de l'Éducation prend fait et cause pour les élèves à problème, entre guillemets. C'est un cadeau inespéré pour l'école de la dernière chance qui accueille les élèves les plus poqués du système. Le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, dit non au projet de la Commission scolaire de Montréal, CSDM, qui veut déloger les 75 élèves du Centre d'intégration scolaire pour améliorer des classes ordinaires dans cette école du quartier Rosemont. Le ministre Proulx invite la CSDM à refaire ses devoirs et à s'assurer qu'aucun élève ne sera pénalisé par une de ses décisions administratives. Concernant le projet de la CSDM de reprendre possession de l'édifice et de le transformer en école primaire au coût de 16 millions, le ministère ne financera certainement pas un projet qui aurait pour conséquence directe ou indirecte de voir des élèves se retrouver à la rue, a confirmé le cabinet du ministre aux devoirs. Au moins 12 morts dans un accident d'autocar de touristes au Mexique. Au moins 12 personnes ont perdu la vie mardi lorsqu'un autocar qui transportait des touristes étrangers partis visiter des ruines mayas s'est renversé sur une autoroute de la péninsule du Yucatan dans le sud-est du Mexique. Affaires mondiales, Canada a affirmé être au courant qu'au moins une famille canadienne a été touchée par l'accident, disant fournir de l'assistance consulaire à la famille au Mexique. Pour des raisons de confidentialité, Affaires mondiales a dit ne pas pouvoir partager d'autres détails pour le moment. Inondations, la moitié des sinistrés se disent insatisfaits du programme d'aide. La gestion n'était pas parfaite, convient le ministre Martin Coiteux. Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a reconnu mardi que l'intervention gouvernementale n'a pas été parfaite pendant les crues exceptionnelles qui ont touché 291 municipalités au cours du printemps. Les citoyens affectés par les inondations ont cependant fait une lecture plus sévère des événements. 53 % d'entre eux se sont dit insatisfaits dans l'ensemble du programme d'aide aux sinistrés du gouvernement du Québec, selon un sondage Somme dévoilé mardi. Ils ont été moins durs envers leur municipalité, se disant satisfaits du soutien obtenu auprès de celle-ci pendant les inondations dans une proportion de 52 %. À ce jour, ces demandes d'indemnisation ont coûté 100 millions au gouvernement. Plus de 5 300 résidences principales ont été inondées et 4 000 personnes ont été évacuées dans 15 régions administratives. Au plus fort de la crise, 1 100 familles ont dû être hébergées d'urgence. 8 mois après les événements, 125 d'entre elles n'ont toujours pas pu réintégrer leur maison. On a le devoir d'améliorer nos façons de faire pour l'avenir, a convenu le ministre Coiteux. Les soins en santé mentale se font attendre. Un patient à l'urgence attend 133 minutes en moyenne avant d'être pris en charge. Même lorsque leur état est considéré comme grave, les patients atteints de troubles de santé mentale attendent en moyenne plus de 2 heures à l'urgence avant de voir un médecin. C'est l'une des conclusions du dernier rapport de la commissaire à la santé et au bien-être, Anne Robitaille, qui se penche pour la toute première fois sur l'utilisation des urgences pour des raisons de problèmes de santé mentale au Québec. Quelque 226 000 personnes se sont rendues à l'urgence pour des troubles de santé mentale en 2016-2017. Cela représente 6 % de toutes les visites dans les urgences du Québec. Près du tiers des patients présentaient des troubles légers, plus du tiers avait des troubles modérés et plus d'une visite sur 10 était en raison d'un trouble grave. Enfin, 19 % étaient en état d'intoxication. À la suite des importantes réformes mises en place dans le réseau de la santé des services sociaux ces dernières années, il faut continuer à suivre régulièrement la situation dans les urgences du Québec.
Claire Pelletier, qui nous chantait Canam Noël.
Et maintenant, c'est le tour du Journal de Montréal en une du journal, mercredi 20 décembre 2017. Parti des Caraïbes, ce voilier, très beau voilier, transportait de la drogue destinée au Québec. 750 kilos de coke à bord. Une cargaison de cocaïne valant 37 millions a été interceptée au large du Maine et un Québécois lié aux Hells Angels a été arrêté à bord. Dix films familiaux pour Noël. Et Confidence du Père Noël. Des policiers jouent au Père Noël. Ils remettront 160 cadeaux à des enfants défavorisés. Dans mon enfance, c'était des Noëls où je n'avais pas de cadeaux. En vieillissant avec un emploi stable, d'excellentes conditions de travail, je voulais remédier à cela et redonner, confie le sergent Danny Dano du service de police de l'Assomption Saint-Sulpice. Saint-Sulpice, dis-je bien. Lancé en 2012, son arbre de la communauté permet aux gens de parrainer des enfants dans le besoin représenté par une boule de Noël en achetant à chacun un cadeau personnalisé en fonction de son sexe et de son âge. Lui et sa collègue Claudie Lavoie s'occupent de la réception et de la distribution des présents auprès des familles sélectionnées en conservant l'anonymat des intervenants. Desservant une population d'environ 26 000 habitants, la proximité avec les ménages aidés permet aux policiers de vivre des contacts humains qu'ils n'auraient pas autrement. Une mère nous a dit que ça avait changé la perception de ses enfants. Avant, ils ne nous voyaient que comme les méchants qui viennent pour arrêter leur père, souligne la policière de 24 ans. La légalisation du pot pourrait être retardée. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, semble reculer sur l'échéancier de l'entrée en vigueur de la loi légalisant le cannabis au pays, selon des propos tenus dans une entrevue de fin d'année accordée à TVA Nouvelles. Ces déclarations contredisent des propos d'élus libéraux ainsi que des documents distribués par le fédéral lui-même. Le cabinet de la ministre québécoise déléguée à la Santé publique, Lucie Charlebois, a fait savoir qu'il travaillait toujours pour être prêt le 1er juillet 2018. Les demandes de délai de la province ont d'ailleurs été refusées. Le cabinet du premier ministre Trudeau a indiqué que la date du 1er juillet 2018 circulait de manière artificielle et qu'une légalisation durant l'été peut autant signifier avant le mois de juillet qu'après. Onze pneumologues de l'hôpital Sacré-Cœur à Montréal poursuivent un employé qui aurait détourné 509 000 $ pour se payer un condo, une fermette, une voiture Tesla et même une piscine à remous. Les biens ont été acquis en tout ou en partie à même les sommes volées, déplorent les pneumologues dans une poursuite civile contre Matthew Brady, un résident de Saint-Jérôme âgé de 28 ans. Toute l'affaire a commencé en 2013 selon le document de cour rendu public cette semaine au Palais de justice de Montréal. À l'époque, une secrétaire s'occupait des affaires administratives des médecins et après 35 ans de service, elle avait toute leur confiance. Après toutes ces années, la secrétaire comptait prendre sa retraite pour préparer la transition. Son fils, Matthew Brady, a été embauché par les pneumologues. C'est ainsi que la secrétaire a confié ses codes d'accès bancaire à Matthew Brady, indique le document de cour. Les médecins n'avaient rien à signaler sur le comportement de Brady jusqu'au mois dernier quand la secrétaire a appelé d'urgence un de ses patrons. Elle a informé que Brady avait admis avoir détourné à son profit 375 000 $, peut-on lire dans la poursuite. Comme Brady est depuis introuvable, les médecins ont fait saisir ses biens immobiliers en attendant d'être entendus par un juge. Ils ont aussi porté plainte à la police. À ce jour, la base de données du ministère de la Justice n'indique aucune accusation criminelle. À peine le tiers des billets a véritablement été vendu. C'est finalement 15 000 billets qui ont été réellement vendus pour la course de Formule E qui a eu lieu cet été à Montréal, soit à peine le tiers de toutes les places disponibles. L'événement s'est soldé par un important déficit de 13,5 millions, dont une bonne partie devra être absorbée par les contribuables montréalais. Rimbaud-Gauthier quitte la politique. Bernard Rimbaud-Gauthier quitte la vie politique avant même d'avoir eu le temps de se présenter à une élection. Le controversé syndicaliste de la Côte-Nord avait annoncé il y a un an son intention de représenter le Parti citoyen au pouvoir lors de l'élection provinciale prévue en octobre prochain. Il a annoncé son retrait sur sa page Facebook hier et a refusé la demande d'entrevue du journal. C'est bien beau consacrer sa vie aux autres, mais il faut penser à soi aussi. La ligne rose du métro de Montréal coûtera bien plus cher que les 6 milliards prévus par Valérie Plante, prévient le président du conseil d'administration de la Commission de transport de Toronto. Je suis certain à 100% qu'il va y avoir des dépassements de coûts. Vous ne pouvez pas savoir quel sera le prix réel d'un projet d'aussi grande envergure. C'est trop gros et complexe, a déclaré Josh Coley, président de la Commission de transport de Toronto. S'il y en a un qui sait combien un projet de développement d'une telle ampleur est imprévisible, c'est bien lui, puisqu'il a vu plusieurs rebondissements dans le développement du projet de prolongement de métro à Toronto. Défraîchi, déplumé, brosse à toilette, le sapin de Noël de Rome, flétri avant le 25 décembre, est devenu la risée des internautes, à tel point que la mairie a décidé d'ouvrir une enquête. Prévue pour trôner pendant au moins un mois sur la Piazza Venezia, dans le centre de la capitale italienne, le sapin a rapidement montré des signes de faiblesse et est devenu la cible des persifleurs sur les réseaux sociaux. Cette histoire rappelle celle du sapin laid de Montréal de l'an dernier. Le premier ministre Justin Trudeau se rendra aux funérailles du milliardaire canadien Barry Sherman et son épouse Honey jeudi à Toronto. Le bureau du premier ministre l'a confirmé mardi après-midi. Le mystère plane toujours sur leur mort suspecte, Barry Sherman, 75 ans, et Honey Sherman, 70 ans, qui ont été retrouvés morts par strangulation dans le sous-sol de leur demeure de Toronto vendredi dernier. 15e fortune au pays? Monsieur Sherman est le fondateur d'une grande entreprise pharmaceutique de médicaments génériques, Apotex. Il est connu pour sa générosité envers plusieurs œuvres caritatives. Il a également participé au financement du Parti libéral du Canada. Monsieur Trudeau s'est dit attristé par le décès du couple sur Twitter dans les derniers jours. Une aide de 81 milliards pour les États sinistrés. Le Congrès américain a préparé une enveloppe exceptionnelle de 81 milliards de dollars pour aider les États affectés par les récentes catastrophes naturelles de la Californie à Porto Rico, en passant par le Texas et la Floride. Le train de passagers qui a déraillé lundi dans l'État de Washington, dans le nord-ouest des États-Unis, roulait à 128 km à l'heure dans une zone limitée à 48 km à l'heure, ont indiqué hier les enquêteurs de l'Autorité fédérale des transports. Trois personnes sont mortes et une centaine d'autres ont été blessées lundi dans le spectaculaire accident d'un train de passagers qui a terminé sa course sur une autoroute dans le nord-ouest des États-Unis. Il est trop tôt pour dire pourquoi le train roulait à cette vitesse, a indiqué à la presse Bella Dinzar du Bureau national de sécurité des transports, en précisant que cette information provenant d'un enregistreur de données de la locomotive. Le parc d'attractions de Disney à Orlando, en Floride, a rouvert lundi son Hall of Presidents après presque un an de travaux avec un nouveau membre qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. L'animatronique parlant de Donald Trump. Alors, c'est bien ça, l'animatronique, bien sûr, un mot que je ne connaissais pas. Cette installation présente sur une estrade plus de 200 ans d'histoire des États-Unis grâce aux 45 présidents qui les ont dirigés, avec des projections et des effets sonores et visuels. Plusieurs sont animés et prennent la parole, mais le dernier venu était raillé à cause du manque de ressemblance physique avec l'original, terrifiant ou ridicule pour certains, tandis que d'autres trouvaient qu'il ressemblait davantage à l'acteur John Voight qu'à l'occupant de la Maison-Blanche. Voilà, c'est vrai qu'il ressemble davantage à John Voight, mais j'ai pas le droit de commenter ici, mais je le fais quand même.
Dans un marais de gens mauvais, il y avait un vieux château aux longs rideaux dans l'eau. Dans le château, il y avait Bozo, le fils du matelot, maître océan de ce palais branlant. Par le hublot de son château, Bozo voyait entrer ses invités. De vieilles rosses traînent en carrosse, et la fée Carabosse, tous y étaient, moi celle qu'il voulait.
Vous devinez que cette histoire est triste à boire, puisque Bozo, le fou du lieu, est amoureux. Celle qu'il aime n'est pas venue, c'est tout entendu. Comprenez ça, elle n'existe pas.
Ni le château au long rideau dans l'eau, ni musicien vêtu de la terre faite. Y'a que Bozo vêtu de peau, le fils du matelot qui joue dans l'eau avec un vieux radeau. Si vous passez par ce pays la nuit, y a un fanal comme un signal de balle. Dans ses champs, tes bras enlacés, afin de consoler pauvre Bozo. Le mot sur son radeau.
Félix Leclerc, accompagné de Beau Dommage, nous chantait Bozo.
Les journaux régionaux, Denis Graton dans le droit. Anne Maude donne au suivant. Vous souvenez-vous de la jeune Anne Maude? Vous avez été si généreux, cher lecteur, envers cette fillette de 3 ans. C'était en février dernier, j'ai rencontré Anne Maude et sa mère, Maude Gaumont, à leur résidence de Maillot, près de Buckingham. Madame Gaumont m'avait alors expliqué que sa fille était atteinte de dyspraxie, une maladie neurologique qui affecte la coordination des mouvements nécessaires pour parler et effectuer certains gestes, et une maladie que Anne Maude devra combattre toute sa vie. Or, les parents de la fillette avaient loué une chambre hyperbare que Anne Maude appelait sa fusée, au coût de 3 700 $ pour un traitement de 40 jours. Et les progrès chez leur fille étaient visibles dès les premiers jours de ce traitement. Le hic, c'est que Maude Gaumont et son conjoint Patrick Benoît n'avaient pas les 20 000 $ requis pour se procurer une fusée qui resterait en permanence dans la chambre d'Anne Maude. Ils ont donc tendu la main au public. Puis, votre générosité légendaire, cher lecteur, a fait le reste. Et en moins d'un mois, La famille d'Anne Maude avait reçu la somme de 20 150 $. « Vous venez de changer le parcours de vie d'Anne Maude », avait écrit sa mère dans une lettre de remerciement adressée au lecteur du droit. Sa fusée a atterri et elle ne décollera jamais de la maison. « Patrick et moi vous remercions de tout notre cœur », avait-elle ajouté. « Comment va Anne Maude aujourd'hui ?»« Elle a fait de très grands progrès », de répondre Maude Gaumont. « Anne Maude parle plus et dort mieux. Ça lui a donné beaucoup d'énergie pour pouvoir mettre en application ce qu'elle apprend dans son quotidien. On a vu notre fille devenir vraiment épanouie. Le temps est maintenant venu pour la famille d'Anne Maude de donner au suivant en organisant un spectacle bénéfice. Le 20 janvier prochain à 13h, le public est convié à l'auditorium Alphonse Desjardins du Cégep de l'Outaouais pour le spectacle « Anne Maude et sa fusée ». Alors c'est bien « Anne Maude et sa fusée », donc le titre du spectacle, qui a pour but d'amasser des fonds pour permettre à d'autres enfants de la région d'obtenir un traitement dans une chambre hyperbare afin d'améliorer leur qualité de vie. Le spectacle bénéfice débutera par la présence de maquilleurs, de sculpteurs de ballons et d'amuseurs publics, d'expliquer Maude Gaumont. Puis suivra à 14h30 le spectacle « Prêt pas prêt » de la chanteuse rock Jeunesse Hatchoum, mise en nomination à la Disque en 2015. Et après ce spectacle, nous ferons tirer une location de 40 jours d'une chambre hyperbare fournie par la compagnie OxySoin, a-t-elle ajouté. De plus, les recettes de tous les billets supplémentaires vendus permettront à une famille de la région de se procurer une chambre hyperbare pour leur garçon âgé de 4 ans atteint de diplégie spastique, une forme de paralysie cérébrale infantile. Les billets pour le spectacle « Anne Maude et sa fusée » sont en vente au coût de 16 $ et disponibles à www.lepointdevente.com, mot-clé « Anne Maude » où vous pouvez communiquer avec Maude Gaumont, maude.gaumont@gmail.com. Dans la tribune, sous la plume de Mélanie Noël, des ateliers sur la sensibilisation aux stéréotypes et à l'homosexualité ont été retirés dans des écoles de Sherbrooke à la suite de la plainte d'un parent. C'est près de 100 jeunes qui seront privés de nos ateliers en raison de la ténacité d'un parent. Il faut se questionner sur le message qu'on envoie à ces jeunes en arrêtant promptement ce programme. Cet acte ne correspond en aucun cas aux valeurs que prône la société québécoise avec sa Charte des droits et de liberté de la personne, déplore la directrice générale de Prima Danse, Katrina Journeau. En novembre 2017, Prima Danse a entamé son programme de 4 ateliers sur la sensibilisation aux stéréotypes de genre dans les écoles primaires et secondaires des régions de Lanaudière, Sherbrooke et Québec. Ce programme de sensibilisation à travers la danse et soutenu financièrement par le ministère de la Justice. Une école primaire de Sherbrooke a fait avorter le programme le 16 novembre dernier à la suite d'une plainte d'un père. La plainte aurait eu lieu le soir même du deuxième atelier, soit celui où Prima Danse montre des photos du projet « Les couples imaginaires d'Olivier Chiappa ». Les photos exposent plusieurs célébrités en situation de couple. Étienne Boulay, David Testo, Guy A. Lepage et Danny Turcotte ont notamment participé au projet. Selon les propos du parent, les enfants de cette classe de sixième année se seraient sentis humiliés par le visionnement de ces images. La présentation de cette photo s'insère dans le cadre d'une sensibilisation encadrée avec des animateurs formés pour répondre aux interrogations des jeunes. Ces photographies présentent pourtant des couples amoureux et ne contiennent aucune trace de vulgarité. L'objectif d'Olivier Chiappa était justement d'éduquer la rétine de ceux qui ont la tête pleine de clichés face à l'homosexualité pour que ces images effacent leurs idées mensongères. Au final, les gens ne gardent que l'essentiel des photos. L'amour, note Mme Journeau en citant le photographe. Le soir même de l'atelier, le père en question aurait appelé d'autres parents puis aurait ensuite contacté la commission scolaire de la région de Sherbrooke, CSRS, et exprimé sa plainte directement à l'enseignant de la classe concernée le lendemain. Le 22 novembre, Prima Danse était censée offrir ce même programme à une école secondaire de Sherbrooke. La veille, après avoir entendu parler de la plainte du père, la directrice adjointe de l'école a signifié à l'organisme qu'elle suspendait le programme. Selon les faits rapportés par Prima Danse, Le parent en question considère également que l'homosexualité ne peut être traitée de la même façon à Sherbrooke qu'à Montréal. On considère cela préoccupant, sachant que les jeunes homosexuels en contexte régional sont confrontés à une réalité différente, mais ont des besoins identiques. Dans l'ouvrage « Homosexualité, variations régionales », il est mentionné que l'impact de vivre dans de plus petites communautés, que le manque de modèles, ainsi que l'absence de ressources et de réseaux sociaux peuvent avoir comme conséquence l'isolement des personnes homosexuelles. Parmi cette classe de sixième année, il est possible que certains jeunes se posent déjà des questions en ce qui concerne leur orientation sexuelle ou s'en poseront d'ici quelques années. Que retiennent donc ces enfants face à l'annulation d'un atelier sur l'homosexualité? Sûrement le sentiment et l'impression qu'être homosexuel est négatif et mal perçu en société, mentionne Mme Journeau. À la suite des événements, Prima Danse a tenté de contacter par écrit et par téléphone la direction de l'école primaire afin de proposer d'adapter l'atelier ou d'offrir une séance de sensibilisation parents-enfants afin de bien saisir l'enjeu qui se présentait dans ce contexte. La CSRS a aussi été contactée. Prima Danse n'a eu aucun retour d'appel. Depuis 2010, Prima Danse offre ses ateliers de sensibilisation à travers la danse en traitant de divers enjeux sociaux tels que l'intimidation, l'affirmation de soi, l'hypersexualisation sociale, l'intimidation et l'homophobie. C'est la première fois que l'organisme reçoit une plainte concernant ces ateliers. Plus de 20 000 jeunes ont été touchés dans plus de 30 % des commissions scolaires de la province, équivalent plus de 1 000 ateliers donnés depuis maintenant 7 ans. Environ 20 % de ces ateliers traitaient d'homophobie. À la suite d'un atelier de sensibilisation sur l'homophobie animé par Prima Danse dans l'une de nos écoles primaires, des préoccupations ont été soulevées quant à certains éléments d'animation qui ont questionné des membres du personnel et plusieurs parents, selon la commission scolaire de la région de Sherbrooke. Face à cette situation, la CSRS a recommandé à ces écoles de prendre le temps de voir à mieux concilier les objectifs pédagogiques de l'atelier offert par Prima Danse et les préoccupations des parents. La CSRS a déjà identifié un conseiller pédagogique pour travailler en collaboration avec l'organisme, ajoute l'organisation, précisant que la pertinence de cette collaboration sera réévaluée, considérant tous les autres organismes prônant la tolérance, l'inclusion et la bienveillance qu'il choisit d'accueillir dans ses écoles. Dans le Nouvelliste, Brigitte Trahan, Saint-Étienne-des-Grès, propriétaire des serres Savoura depuis 2015, Stéphane Roy n'a nullement l'intention d'imiter les serres Bertrand qui ont annoncé leur intention de se convertir à la culture de cannabis biologique. « Ça ne fait pas partie de mes valeurs », indique le président de Sagami Savoura et Savoura Bio. « J'ai un enfant de 13 ans », plaide cet homme qui brassait déjà des affaires quand il était adolescent. « Je me vois mal demain matin me lever et dire que les serres Savoura se lancent dans le cannabis », dit-il. Le producteur de tomates et nouvellement de fraises de serre, qui possède une dizaine d'installations au Québec, indique qu'il entend continuer dans sa voie, même si cela comporte certains défis, comme c'est le cas présentement à ses installations de Saint-Étienne-des-Grès. C'est qu'il reste toujours quelques problèmes à régler au niveau du biogaz fourni par la Régie des gestions des matières résiduelles de la Mauricie. Vous écoutez l'émission Le quotidien des quotidiens à Canal M de Vues et Voix. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Encore une bonne demi-heure à venir, une chanson de Noël, j'imagine, Maurice. Et puis les actualités culturelles et sujets libres. Restez avec nous.
OK, boys, je pense qu'on est prêt à partir. Oh, yeah!
S'envole le cheval avec ses grelots et le traîneau joyeusement dévale à travers les coteaux. Dans le vallon s'accroche l'hiver, mais le ciel est bleu. Oh, qu'il fait bon faire un tour au grand air comme deux amoureux. Faudy up, faudy up, faudy up, away, away du traîneau. En mettez-vous bien dans vos manteaux. Oh, hop, on dit hop, on dit pour se tenir chaud. L'un contre l'autre, on se blottit comme deux amours dans un lit. C'est merveilleux de voir des vilains comme un décor peint. Devant nos yeux, les villages tout blancs et les petits sapins. Parfois tu cries quand ça penche un peu, c'est l'instant d'effroi. Moi je souris, j'ai le cœur amoureux et le mou d'une effroi. Comment t'aimes? Jeter, je pris le chemin du retour. Nous allons être surpris par la tombée du jour. Quand c'est l'heure où la nuit sans bruit s'épanouit comme une fleur et s'allume le ciel qui change de couleur. Mais voici notre maison qui nous fait signe au loin. Sa lumière à l'horizon scintille comme un point. Je me vois déjà près de toi, le rire aux yeux, le cœur content. Près du grand feu de bois qui flambe et nous attend. Au petit trot s'envole le cheval avec ses grelots. Et le traîneau joyeusement dévale à travers les coteaux. Dans le ballon s'accroche l'hiver, mais le ciel est bleu. Ah, qu'il fait bon faire un tour au grand air comme deux amoureux. On dit hop, on dit hop, on dit hop, away, away du traîneau. Emmenez-vous bien dans vos manteaux. On dit hop, on dit hop, on dit hop, away, pour se tenir chaud. L'un contre l'autre, on se blottit comme deux moineaux dans un nid. C'est merveilleux de voir des filants comme un décor peint. Devant nos yeux, les villages tout blancs et les petits sapins. Parfois tu cries quand ça penche un peu, c'est l'instant d'effroi. Moi je souris, j'ai le cœur amoureux et le bout d'une effroi. Oh yeah!
On vient d'entendre Damien Robitaille qui nous chantait « Promenade en traîneau ».
Tous les journaux montréalais reviennent sur le Trip à trois. C'est un nouveau film qui prend l'affiche très bientôt. Alors, dans Le Devoir, Manon Dumais accorde 3 étoiles à ce film. Dans la presse, 2,5 étoiles. Et dans le Journal de Montréal, je pense que c'est 4. En tout cas, c'est la critique la plus positive qui est dans le Journal de Montréal. Je vous lis celle qui est entre les deux, celle de Manon Dumais dans Le Devoir. La beigitude des choses, Mélissa Desormeaux-Poulain, sans canaille dans le Trip à trois de Nicolas Monette. Alors... Épouse fidèle, mère dévouée, employée modèle, Estelle, incarnée par Mélissa Desormeaux-Poulain, la mi-trentaine, réalise que sa vie manque de piquant lorsqu'une promotion lui échappe au profit d'une collègue plus jeune et plus flamboyante, Karine Gontier-Heinemann. Bref, Madame est... Heinemann plutôt. Bref, Madame est un peu plate. En discutant avec sa sœur, incarnée par Bénédicte Descaries, croqueuse d'hommes en série, et ses copines, l'une mère indigne au bord de la crise de nerfs, Anne-Élisabeth Bossé, l'autre éternelle célibataire, Geneviève Schmitt, elle décide alors d'organiser un trip à trois dans le dos de son chum Simon, interprété par Martin Matt. En apprenant la nouvelle, Simon annonce à Estelle qu'il est prêt à tenter l'expérience. Bientôt, le couple en panne de désir comprend que même les fantasmes les plus convenus ne se concrétise pas aussi facilement qu'au cinéma. À la fin des années 1960, le cinéma québécois a dénudé les jeunes filles sages et les femmes au foyer afin d'offrir aux spectateurs de médiocres comédies coquines. Rassurez-vous, ce n'est pas du tout dans cette veine-là que s'inscrit la comédie du réalisateur Nicolas Monette, celui qui a réalisé Aurélie Laflamme, Les pieds sur terre, entre autres, et du scénariste Benoît Pelletier, qui a signé Le sens de l'humour, réalisé par Émile Gaudreau. Sans aller jusqu'à dire que Le Trip à trois est une comédie familiale, Le tout se rapproche davantage de la prude sitcom que de ce qu'on appelait à l'époque un film de fesses. En fait, le trip à trois emprunte davantage aux comédies américaines folichonnes, à la Bridesmaid ou à la Bad Moms, avec un soupçon de sexe à New York. Estelle n'est pas sans rappeler la romantique Charlotte au sein de ce quatuor sympathique qui l'encourage à s'encanailler pour sauver son couple. Dans son illustration des Elias de la vie conjugale, le trip à trois pourrait faire office du pendant féminin et lumineux du Mirage de Ricardo Troggi et Louis Morissette. Certes, ce ne sont pas tous les personnages qui ont droit à un happy end, mais la comédie n'abandonne pas le spectateur sur une note amère. Par la présence de Martin Matt, qui a pris du galon depuis sa désastreuse expérience dans Nitro et qui laisse le champ libre à sa partenaire, l'ensemble évoque également un long épisode des beaux malaises. Le rythme y est tonique, le ton léger et les répliques amusantes. Rompue au rôle dramatique, Mélissa Desormeaux-Poulain fait montre d'un bel aplomb dans le registre comique. À ses côtés, Karine Gontier-Heinemann fait mouche à chacune de ses apparitions, tandis que Bénédicte Descaries, Anne-Élisabeth Bossé et Geneviève Schmitt s'en donnent à cœur joie à s'échanger des propos salaces. Au bout du compte, le trip à trois est une comédie plus polissonne que vulgaire, plus sage que sulfureuse, sur l'empowerment féminin, où l'on célèbre les petits bonheurs de la vie à deux. Et avec tous les attristants et révoltants témoignages lus ou entendus dans la foulée de l'affaire Weinstein, cette comédie, où l'on rigole sainement de sexualité, apparaît presque comme un baume au cœur. Le film « Les rois mongols » de Luc Picard sera présenté en première internationale lors du 68e Festival international du film de Berlin. Il fera partie de la compétition dans la section « Génération », le film scénarisé par Nicole Bélanger à partir de son propre roman, est maintenant disponible sur DVD, vidéo sur demande et sur les plateformes numériques après une carrière en salle. Le Festival de Berlin se tiendra du 15 au 25 février 2018. Autoportrait de Paris avec chat, c'est le titre du nouveau livre de Dany Laferrière qui sortira au Québec le 10 avril aux éditions du Montréal en coédition avec Grasset. Il y a du texte, il y a des dessins, mais ce n'est pas une bande dessinée. Ce n'est pas non plus un roman graphique, c'est un roman-roman, calligraphié et dessiné à la main, explique son éditeur québécois dans sa programmation hiver-printemps. Après tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, c'est le deuxième titre que publie Dany Laferrière depuis son entrée à l'Académie française. Un peu comme L'art presque perdu de ne rien faire, Autoportrait de Paris avec chat s'annonce comme un parcours à travers les influences de l'écrivain qui se sert ici du Paris littéraire pour se raconter. L'Oratoire Saint-Joseph poursuit sa série dominicale « Noël à l'orgue » interprétée par l'organiste titulaire Vincent Boucher. Le programme de la soirée du 24 s'intitule « Les Noëls de Daquin et Gigou » et met en relief des œuvres du compositeur, organiste et claveciniste parisien Louis-Claude Daquin, de la période baroque, ainsi que du compositeur et organiste aussi parisien Eugène Gigou, associé au romantisme et au post-romantisme. Le dimanche suivant, on prévoit un Noël improvisé en duo avec l'organiste Jean-Michel Grondin et le baryton Pierre Rancourt. On a prévu une formule comparable à la Basilique Notre-Dame, soit l'interprétation des plus beaux airs de Noël par l'organiste titulaire Pierre Grandmaison et la soprano Béatrice Baillargeon à l'Oratoire Saint-Joseph les 24 et 31 décembre à la Basilique Notre-Dame du 27 au 31 décembre. "23", c'est le nombre d'années qu'a mis la chanson « All I Want for Christmas is You » interprétée par Mariah Carey pour atteindre le top 10 du Billboard Hot 100, le palmarès de référence américain. Véritable classique des fêtes, le tube pop figurait sur l'album « Merry Christmas » paru en 1994. L'essor de la chanson dans le top 10 du Hot 100 est attribuable en grande partie à sa popularité sur les sites d'écoute en continu. Depuis que le Billboard tient compte des écoutes en streaming pour évaluer la performance des chansons, All I Want for Christmas is You se classe bon an mal an dans le Hot 100, mais c'est la première fois qu'il se hisse aussi haut, au 9e rang. Un beau cadeau Noël pour la diva qui a souvent fait parler d'elle pour ses contre-performances vocales au cours des dernières années. Palmarès, les 10 meilleurs albums de la francophonie en 2017, les variantes variées de la vraie chanson populaire. C'est un article signé à deux, Sylvain Cormier et Philippe Papineau. Il se peut que nous ayons laissé passer une merveille ou deux. Mais bon, les disques de France et des alentours traversent de moins en moins la grande mare et on attend les artistes. Plaignons-nous amèrement, mais consolons-nous avec cette dizaine valeureuse. Alors, je ne vous lirai pas toutes les descriptions des albums, mais je vais quand même lire les 10 meilleurs albums, les titres et les artistes. Alors, il y a Blitz par Étienne Dao, L'un de nous, Albin de la Simone, aussi L'Amo Mali par M, Toumani et Sidiki Diabaté, Rest, Charlotte Gainsbourg, À nos amours, l'album de Julien Clerc, Mauve par Féfé, À peu près par Pomme, Vers les ours polaires, alors c'est bien cela, de Tim Doop ou Dop, Un coup de queue de vache, Thomas Fersan, et le dixième et non le moindre, Zanaka par la chanteuse, auteure, compositrice, interprète, artiste féminine de l'année aux victoires, Jane, J-A-I-N. Le Centre canadien d'architecture, CCA, est à la recherche d'un nouveau directeur avant que le directeur actuel de l'établissement, Mirko Zardini, en poste depuis 12 ans, annonce son intention de quitter ses fonctions. Le CCA prépare le terrain pour ne pas être pris de court lorsque ce sera le cas. C'est ce que disait mardi Pierre-André Timmans, vice-président du Conseil des fiduciaires du CCA. « C'est un processus qui demande du temps », dit M. Timmons. « Ce n'est pas comme trouver un avocat ou un comptable. » Dans un communiqué publié récemment, le CCA dit jeter les bases de son avenir en mettant en place un plan de transition à long terme de sa direction. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let
Brenda Lee qui nous chantait Rocking Around the Christmas Tree. Et ben, j'ai le goût de la dédier à la ville de Rome.
Bien oui, qui fait rire d'elle à cause de son sapin.
Chacun son tour.
On le considère comme ridicule et laid. Enfin, chacun ses goûts. Je poursuis avec les sujets libres, segments de sujets légers, mais pas toujours, des sujets aussi qui font réfléchir. Alors, Mylène Moisan, dans Le Soleil d'aujourd'hui, sa chronique s'intitule « Ça commence par un papier ». Françoise aimerait beaucoup installer son sapin chez elle avant Noël. Elle en a un beau, avec des petits poils blancs et des paillettes de couleur. Elle l'a reçu en cadeau il y a 5 ans. Il est encore dans sa boîte. Elle n'a pas de place pour le mettre, pas un pouce carré. Le sol et les meubles de son logement sont enterrés, par des déchets surtout. C'est de l'encombrement extrême, me résume Françoise, tirée à 4 épingles. Elle m'a donné rendez-vous chez elle pour que je voie l'état des lieux. Je voulais y faire l'entrevue. Impossible. Nulle part pour s'asseoir, ni même pour poser le pied. Françoise a accepté de me raconter son histoire parce qu'elle n'est pas la seule à souffrir de déficiences organisationnelles. Elle est un cas sévère, mais il y a pire encore. Cette désorganisation a un point de bascule. C'est souvent causé par un événement précis, par un deuil, par une maladie, même par une naissance. Françoise, elle, est retournée aux études à temps plein il y a 10 ans. C'est là que ça a commencé pour moi. Je passais toutes mes journées à l'école, du matin au soir, je faisais mes travaux là-bas. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à perdre le contrôle, graduellement. Ça commence par un papier qu'on jette par terre, par un verre qu'on ne ramasse pas, par la vaisselle qu'on ne fait plus, jusqu'à ce qu'on ne voit plus le plancher, littéralement. Françoise ne cuisine plus du tout depuis le mois de juin. Sa cuisine est complètement encombrée. Je mange des plats tout faits et du poulet fusé. Du comptoir et de l'évier, on ne voit qu'émerger le robinet. Dans sa chambre, la moitié de son lit lui sert de bureau. Elle dort sur l'autre moitié. Au salon, seule une petite partie du sofa est dégagée. Elle ne peut même pas allumer la bougie qui sent Noël sur la table. Elle est enterrée. Ça serait dangereux pour le feu. Depuis que l'entreprise pour laquelle elle travaillait a fait faillite au début de l'année, la désorganisation est plus grande encore. Je n'ai plus d'horaire, je n'ai pas de routine. Je dors à n'importe quelle heure, je mange n'importe quand. Pour les 2 dernières journées, j'ai dormi 2 heures. Ce qu'elle fait pendant ce temps, je fais des recherches sur l'ordinateur. Je lis aussi énormément. Et tu lis quoi? Je lis tout ce que je trouve sur le désencombrement et sur la procrastination. Je sais tout sur le sujet. Je sais ce qu'il faut faire. Il faut changer ses habitudes de vie. Plus facile à dire qu'à faire. C'est long de prendre de nouvelles habitudes. Plus c'est encombré, plus on est dépassé par l'ampleur d'où on est rendu. On fige devant ce qui est à faire. Et elle est seule. Il n'y a aucune ressource pour nous aider. Elle sait quoi faire. Reste à le faire. Je dois commencer par libérer la cuisine, c'est ça la priorité. Je dois en faire un peu tous les jours. Je dois identifier des zones et libérer les zones une à la fois. Elle s'est fixé l'objectif du 23 décembre pour installer son sapin de Noël. C'est possible. Si je donne un coup, disons, de 5 heures pour dégager le plus gros, je vais pouvoir le faire. Mais pour vraiment changer mes habitudes, pour me faire de nouvelles routines, c'est 6 ou 8 mois. Françoise n'a pas toujours été comme ça. Elle s'est laissée traîner quand elle était ado et une fois quand j'étais adulte pendant une période difficile. Pour le reste, j'arrivais quand même à être assez ordonnée. Je faisais mon ménage le samedi. Je me ramassais au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'elle bascule. Elle est membre d'un groupe fermé sur Facebook où quelques milliers de personnes partagent leurs difficultés à désencombrer leur intérieur. Il se donne des trucs, s'encourage. C'est mon plus gros obstacle à vie. Être organisé, ce n'est pas juste de belles boîtes, c'est d'apprendre à changer ses habitudes, de reprendre le contrôle sur sa vie. Là, je suis vraiment déterminée. Je me suis donné des objectifs, j'ai plein de projets. Tu sais, quand ta maison est comme ça, quand tu es dans l'encombrement, tous tes projets sont repoussés. Et il y a une lourdeur à vivre 7 jours sur 7 là-dedans. Quand on s'est quitté, elle m'a promis de m'envoyer une photo du sapin installé dans son salon. et de sa chandelle qui sent Noël. Françoise était donc un nom fictif. Faire place nette. Jocelyne Vient est organisatrice. Elle gagne sa vie à aider les autres à désencombrer leur maison. Elle fait un peu de tout. Elle aide des personnes âgées à casser maison, d'autres à vider une pièce débarras, ou d'autres qui, comme Françoise, sont dans l'encombrement extrême. Le Québec est plein de gens qui sont encombrés à différents degrés. Je trouve ça dommage que ce soit tabou. Il ne faut pas avoir honte de ça. Il y a des gens qui sont dans la surconsommation. Les bonnes recettes de Ricardo, c'est bien, mais ça prend plein d'affaires pour les faire. Les graines de ci, les graines de ça, c'est bien, mais il faut les mettre quelque part. Résultat, on accumule. Quand la situation devient critique, le téléphone de Jocelyne sonne. On m'appelle, par exemple, quand la femme de ménage ne veut plus venir ou quand on veut faire une chambre au sous-sol pour l'ado. Elle se souvient d'une personne âgée chez qui elle est allée. L'homme était dans l'encombrement total. Il y avait une travailleuse sociale qui est passée quand j'étais là. Elle était venue pour lui expliquer comment se déplacer avec sa marchette, comment passer du lit au fauteuil, entre autres. Je lui ai demandé « Allez-vous faire quelque chose pour l'état des lieux? » Elle m'a répondu qu'elle était ici pour la marchette. Pour Jocelyne, l'ordre est une seconde nature. Ce n'est pas le cas de tout le monde. L'armoire à plat Tupperware peut être un bon indicateur. Ou le tiroir de tuque aussi. On peut aussi regarder du côté de l'atelier, du fond du sous-sol, du cabanon. Des fois, ça va jusqu'au point où les gens n'osent plus y aller. La solution? La discipline. Pour aider M. et Mme Tout-le-Monde, Jocelyne a créé son entreprise Zone Atlantis, spécialisée dans le désencombrement et le laisser-aller. Souvent, c'est une question de se départir de certains objets qu'on garde. Il faut être capable de faire un tri. Il faut ramener à la maison la discipline qu'on a au travail, faire les choses dans un certain ordre. C'est tout simple. Une place pour chaque chose à sa place. Quelques chiffres. 300 000 objets en moyenne dans une maison. La superficie des maisons a triplé en 50 ans. 3,1 % des enfants vivent en Amérique et possèdent 40 % des jouets. La femme moyenne possède 30 ensembles vestimentaires. 93 % des adolescentes ont le magasinage comme passe-temps préféré. Une femme passe en moyenne 8 ans de sa vie à magasiner. Source, site Carnet des Simplicitaires, citant le blog Becoming Minimalist de Joshua Becker. Les statistiques sont tirées d'études américaines, mais peuvent donner une idée de la réalité canadienne. C'était donc la chronique du jour de Mylène Moisan, intitulée, je vous le rappelle, ça commence par un papier. Ciné-Cado se refait une beauté, le studio Squeeze de Québec a refait une beauté à la signature visuelle de Ciné-Cado, le marathon annuel de films pour la famille de Télé-Québec qui célèbre ses 35 ans cette année. Depuis la présentation d'Astérix le Gaulois le 11 décembre, des boules de Noël délurées font les 400 coups autour du logo traditionnel de Ciné-Cado. Il fallait respecter l'esprit familial et festif de Noël tout en insérant notre touche Squeeze. Nous sommes super fiers, indique le président Denis Doré. Une lettre dans le Devoir, Colin Debine. Aussi, ainsi s'est exprimé Michel Audette en réaction à une question de Michel C. Auger sur un des aspects des relations entre femmes autochtones et les corps québécois de police. Je ne retiens ici que l'exclamation de Mme Audette qui m'a ramené à la façon orale de réagir aux événements, bons et mauvais de mon enfance, en ce temps où, canadienne-française, mon usage de la langue française ne me permettait souvent d'exprimer ma pensée, mes sentiments et autres émotions qu'en termes primaires. Bref, je me suis dit en entendant Mme Audette qu'elle et moi étions mêmement le résultat d'une éducation commune basée sur notre lutte contre la domination négative du même oppresseur qui, selon l'opinion de Lord Durham, amènerait nos peuples sans histoire et sans culture à mourir de leur belle mort. Colin Debine, exclamation couvrant peut-être d'une couche rutilante de révolte permanente et vitale, les eaux blanchies de Lord Durham. C'est une lettre signée André Ferrati, écrivaine, à Brigham le 18 décembre 2017, publiée dans Le Devoir d'aujourd'hui. C'est tout pour l'émission Le quotidien des quotidiens. Merci Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. Ici Hélène Denis qui vous dit un grand merci d'avoir été là. Dans quelques minutes, les paractualités. À bientôt.